c'est Willy Sagnol. Ici, c'est Willy.
Allez, 19h02. Vous êtes dans la deuxième heure d'Ici, c'est Willy sur RMC jusqu'à 20h. Toujours avec François Pinet, Franck Leboeuf, Laure Le Pailleur et Louis Amar.
Absolument.
Louis, on va parler de nos espoirs.
Espoir là, ou désespoir?
Ah, sur hier,
c'est beau, c'est ça. Hier, c'est désespoir.
C'est même pire que désespoir hier.
Je peux m'arrêter là.
C'est naufrage. Ah, t'as fait la... Tu sais, tu y as eu
mais
la. Tu vois, fait la
mais, tu vois, Jean-Louis, non, mais Jean-Louis, d'habitude, tu vois, il est offensif, il est. Mais là, c'est beaucoup plus. C'est plus léger. Enfin, c'est plus. Comment dire?
C'est poétique.
Voilà,
c'est plus poétique. C'est intelligent, ça passe partout.
À suivre avant. À suivre jusqu'à 20h dans Ici, c'est Willy. Dans le carré VIP, la Cannes, est-ce que c'est l'année de l'Algérie? Dans le Focus Ligue 1, l'actu de Lyon, l'OL doit-il tout faire pour prolonger Anthony Lopez? Et puis à 19h45, le buzzer Pinet, et nous retournerons au Parc des Princes pour les compos de France-États-Unis. On retrouvera Anthony Reich d'ailleurs dans quelques instants autour du stade pour voir si l'ambiance monte à moins de 2h maintenant du coup d'envoi de ce quart de finale de Coupe du Monde. Mais d'abord, c'est donc une histoire de verre à moitié plein ou à moitié vide. Les optimistes retiendront que l'équipe de France Espoir a enfin décroché une qualification olympique, la première depuis les Jeux de 96 à Atlanta. Les autres se souviendront surtout de la cuisante défaite d'hier en demi-finale 4-1 face à l'Espagne.
RMC.
Quatrième but espagnol, c'est une leçon de foot que les Espoirs français sont en train de prendre.
Willy contre-attaque.
Une réussite ou un fiasco, Willy?
Fiasco. Alors il faut, on va là parce que là on dit, il y en a qui vont dire oui mais on s'est qualifié pour les JO, très bien. On va revenir un petit peu en arrière et expliquer aussi pourquoi on s'est qualifié pour les JO. C'est la première fois depuis, on va dire que les espoirs existent, que il y a eu un changement de, il y a eu une modification dans le règlement, c'est-à-dire que dans les qualifications, le premier de chaque poule était directement qualifié pour le championnat d'Europe. Donc si jamais ça avait été le cas sur les dernières années aussi, l'équipe de France, 9 fois sur 10, se serait déjà qualifiée.
Oui, parce qu'elle devait passer par les barrages.
Parce qu'avant, il y avait toujours des barrages. Pour les premiers, il y avait des barrages. Ouais. Et il y avait des barrages aussi pour certains seconds. Donc déjà, si on s'y retrouvait au championnat d'Europe, c'est aussi grâce à ça. Parce que les qualifications, on n'a pas gagné tous les matchs. Ouais. On a eu des matchs très difficiles. Et là, c'était pour moi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais on reste, les gars, sur 4 victoires sur les 14 derniers matchs avec cette génération. Donc on va surtout pas dire que c'est génial. On a des gamins qui jouent dans des grands clubs ou qui veulent aller dans des grands clubs et on veut me dire que c'est super, qu'on est qualifié. Eh ben oui, bah c'est super, allez, on est qualifié. Mais on a gagné 4 matchs sur les 14 derniers. Et on se prend 4-1 pardon, contre les Espagnols. C'était une leçon. Ceux qui ont regardé le match hier, c'était même pas une différence de niveau. C'était une leçon que les joueurs espagnols ont montré aux joueurs français. C'est-à-dire que les joueurs espagnols leur ont montré, c'est comme ça qu'on joue en équipe.
Avec un petit bémol sur la première période quand même, Willy, non?
Pardon?
Avec un petit bémol sur la première période, non?
Même pas.
Allez,
quand on regarde le parcours. Face à l'Angleterre, ils sont vraiment passés sur un fil, ouais. La victoire. Mais hier, franchement, ils ont pris une leçon de football. Et moi, par contre, c'est bien parce que ça me réconcilie un petit peu avec ce qu'on disait ces derniers temps. On peut bien jouer au football et gagner. Ouais, et les Espagnols nous l'ont prouvé hier. Et quand on parlait justement du projet un petit peu de jeu des équipes de France, on s'aperçoit que finalement, ils ont encore manqué d'ambition hier et que ça peut pas forcément fonctionner sur le long terme.
Voilà, ce que j'ai dit sur les filles hier... Au niveau de je dirais de l'animation offensive, je pourrais le redire ce que sur exactement. Les bleuets hier soir, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il y avait il y a du talent et certains joueurs ont du talent, mais c'est tout. Mais à un moment donné, l'Espagne l'a montré, pour aller marquer des buts, un ballon il va jamais tout seul dans une cage, il faut faire des passes. Pour faire des passes, il faut aimer ses partenaires. Pour aimer ses partenaires,
il faut créer du mouvement, si on aime ses partenaires.
On leur donne des solutions. Quand on fait des passes, c'est des passes cadeaux, mais c'est pas des passes de l'extérieur, c'est pas des coups de fusil à 10 mètres comme si t'étais déjà à 40 mètres. C'est moi cette génération espoir ne me plaît pas. Je le dis, elle ne me plaît pas.
Au point de vue du football, du comportement, de ce qu'elle dégage,
je vais pas parler de comportement parce que je les connais pas.
Ouais.
Je suis pas dans le vestiaire avec eux, mais donc je ne peux parler que sur ce qu'elle dégage. Elle ne dégage pas l'image d'une bande de potes. Et je pense que pour gagner pour aller loin dans des compétitions, pour écrire des grandes histoires, il faut aussi être une bande de potes à un moment donné. Je dis pas qu'il faut tous s'aimer et se faire la bise sans arrêt, mais il faut quand même se respecter et s'apprécier. Et je pense pas que ça soit le cas. Je pense qu'il y a eu des choses, des histoires avec les, je crois que c'est Jean-Kévin Augustin qui,
mais qui avait été écarté par Ripoll, oui.
Saint-Maximin qui vient, quand il vient à chaque fois il fait ce qu'il veut, donc il s'est fait écarter aussi. À un moment donné, bah t'écartes certains joueurs, mais tu écartes certains joueurs si t'as le talent derrière, si t'as le talent derrière. Là, il y avait pas le talent derrière.
Après, le talent, il est peut-être en équipe A. Non, avec Mbappé, avec des joueurs qui ont pu jouer avec cette équipe-là, Bamba qui avait fait plutôt un bon début.
Regardez la sur les compos, sur les quatre matchs qu'on a fait, c'était quatre compos différentes. C'est Aouar, je te mets le premier match, je te sors le deuxième, je te sors le troisième, et puis tiens, je te remets le quatrième.
Et parfois un système de jeu aussi différent.
Des systèmes différents. C'est une équipe nationale, c'est pas une équipe de club. Une équipe de club, tu peux tous les jours à l'entraînement travailler certaines choses, travailler des bases. Donc tu peux éventuellement changer de système d'un week-end à l'autre parce que t'as toute la semaine pour les travailler, tu connais très bien tes joueurs. Une équipe nationale, à un moment donné, quand tu es joueur, puisque c'est des joueurs avec lesquels tu n'as pas l'habitude de jouer tout le temps, tu dois avoir des garanties, ce qu'on appelle des garanties pour les joueurs, des réflexes, c'est-à-dire que les joueurs doivent savoir ce qu'ils doivent faire à tel moment du match, dans tel système. Et si tu changes à chaque fois le système, si tu changes à chaque fois l'animation, les joueurs sont perdus. Alors, et déjà...
Et si tu changes aussi les joueurs, parce qu'en fait, il a aussi beaucoup tâtonné. On a vu des changements au milieu de terrain, des joueurs qui ont évolué. Ren Adelaide, beaucoup utilisé, mais pas tout le temps au même poste. Aouar, qui est aussi... voilà, par rapport à ses prestations, avait été mis de côté. Pourtant, ça devrait être un leader technique de cette équipe. Moi, surtout, ce que je retiens de cette équipe, c'est que on n'a pas vu des joueurs à leur niveau.
Alors, j'ai une question, toi. J'ai une question, Laure, sur Aouar. Il a joué le premier match, il a joué le quatrième match. Est-ce que ce mec-là, il a un potentiel technique de vision de jeu qui est extraordinaire à son âge. Moi, je juge extraordinaire. Parce qu'il a fait certains matchs cette année que, à son âge, pour un milieu de terrain, ça aurait été, je pense notamment à Manchester City, c'était fabuleux. Ouais. Mais est-ce qu'il t'a montré, sur ces deux matchs, qu'il avait envie de défendre un maillot? Sur le premier et sur le quatrième.
Mais il est dans la continuité de ce qu'il a fait après, en fin de saison, avec l'Olympique Lyonnais, parce que c'est vrai qu'il y a eu ces très bons matchs à Manchester. Mais derrière, on a eu l'impression, en deuxième partie de saison, qu'il s'est un petit peu reposé aussi sur ses lauriers. Moi, je ne l'ai trouvé pas à son niveau. Oui. Au niveau aussi du rendement. Par rapport à son volume de jeu, par rapport à sa qualité technique. Ouais. On avait l'impression que déjà, il se voyait aussi ailleurs, qu'il y avait aussi des enchères par rapport à son transfert, et que ce joueur pensait déjà à la mi-saison
après,
avoir,
il est peut-être bien aussi
avoir acquis.
Dans une équipe qui joue au foot. Aouar, il a peut-être besoin aussi, à côté de lui,
mais pourtant, il y a des bons joueurs de foot dans cette équipe.
Donc, des joueurs bons
ne peuvent être bons que s'ils ont des bons joueurs à côté.
Non, mais en tout cas, tu peux aussi les mettre dans les meilleures conditions.
Parce que je connais des joueurs très moyens qui ont joué dans des équipes où il y avait beaucoup de talent, mais c'est ça qui leur a fait monter leur niveau. Ouais. Mais un joueur qui est déjà bon, s'il ne peut être que bon avec des bons joueurs, eh ben à un moment donné.
Non, mais tu parles du manque de fond de jeu de l'équipe de France. Ça peut pas aider ce genre de joueur.
Non, mais le fond de jeu. Si le joueur est bon, c'est lui la garantie du fond de jeu.
Ah bon,
c'est lui qui doit donner cette garantie de fond de jeu.
Moi, je pense qu'il y a plusieurs problématiques. En fait, on a fait un débat cette semaine sur le jeu proposé des différentes équipes de France, en trouvant ce jeu généralement plutôt pauvre. Alors, on a débattu. Moi, j'ai dit, il y a des résultats, on est devenu champion du monde. Donc, qu'est-ce que tu veux ? On va continuer, puisque Léa, ça fonctionne. Pourquoi pas les filles, ça fonctionnerait. Et peut-être les espoirs. Ça, c'était avant cette défaite cuisante. Est-ce que la problématique d'une proposition de jeu basée sur la défensive ne nous permet pas de rêver plus que ça? N'oublions pas que Mbappé aurait pu être avec ses espoirs et que ou lui ou son club ou je sais pas Ripoll ou Deschamps n'ont pas voulu.
C'est entre Deschamps et Ripoll, voilà. Ils se sont mis d'accord. À partir du moment où tu verras, c'est difficile de demander à un joueur de jouer avec ses espoirs.
Moi je suis pas tout ça. Je mets juste une toute petite parenthèse là-dedans. D'un côté c'est normal, mais d'un autre côté, un des joueurs qui a brillé hier avec l'Espagne, Oyarzabal, l'attaquant, il joue chez Léa, il avait marqué un but contre la Suède juste avant
national, c'est pas encore le même niveau.
Non mais Laure,
il y avait des joueurs de A, alors que nous, on avait peut-être entre guillemets joué le jeu dans la mesure où il y avait
tu joues en équipe de France A, tu vas pas jouer avec les espoirs.
Pourquoi ça? Si t'as l'âge pour jouer pas avec les espoirs. Alors moi, j'ai Moi, j'essaye de comprendre certaines choses. Quelle est l'utilité d'avoir des équipes de jeunes nationales? Quelle est l'utilité d'avoir une équipe espoir?
C'est pour ça qu'il me répondait pas.
Mais oui, c'est pour ça. C'est pour ça, Richard.
Excuse-moi, Louis. Mbappé peut pas. On veut pas faire jouer notre meilleur joueur, celui qui doit être le, qui doit guider l'équipe de France sur les 10 prochaines années. On va quand même pas lui faire faire une compétition internationale.
Pourquoi Neymar il a été faire les Jeux Olympiques?
Parce qu'il voulait un titre.
Ouais, ben voilà. Et ben Neymar, c'est bien. Ben va faire tes Jeux Olympiques. Et depuis, t'es toujours blessé.
Il veut pas un titre. Mbappé en plus, ça intéresse pas. Non mais moi je pense qu'on a c'est vraiment franco-français, c'est-à-dire que ça y est, parce qu'on a joué avec Léa, on peut pas aller jouer avec Léa Prime ou avec, enfin, avec les espoirs. Mais par contre, en Espagne, c'est possible.
Je savais même pas qu'il existait avant le match.
Moi,
hier.
Je pense que cette équipe de France espoir, c'est pour les joueurs qui n'ont pas encore franchi le palier pour aller chez les A. Donc c'est pour avoir justement prendre du niveau, le niveau international, justement se frotter à des équipes internationales pour éventuellement après passer un cap pour prétendre à une place, ça te donne de l'expérience pour
moi. Alors si tu veux, tu prends ça. Alors moi je vais poser la problème. J'ai pas fait les espoirs, j'ai pas fait l'équipe de jeunes, j'ai fait un peu des A prime et les A. Donc j'ai pas cette racine, ce truc qui me pousse à aimer les espoirs, à dire c'est important parce que ça va m'amener de l'expérience. J'ai l'impression que depuis des décennies, notamment en France, mais ça les fait chier d'aller faire ces matchs. La plupart des mecs sont titulaires. On parle d'Aouar, on a parlé de Dembélé, on parle de la plupart des joueurs. Guendouzi à Arsenal. Ils jouent des matchs tous les samedis sur dans des stades pleins avec une confrontation monumentale. Et là, on les fait jouer des matchs devant 2000 personnes, 3000 personnes. Ils n'en ont rien à foutre. Je les comprends parce que je me dis mais quel intérêt en fin de saison. Mais oui, parce que ça apporte quoi?
Tu les comprends.
Mais qu'est-ce que ça apporte?
De pas être motivé quand tu portes le maillot bleu.
Mais c'est pas le maillot bleu, des petits bleus.
Et alors, mais c'est le maillot bleu quand même. T'as le coq avec les étoiles.
Mais pour d'accord. Alors toi tu considères que les espoirs c'est important. Excuse-moi.
Bien sûr.
Je considère que non. Mais
non, mais tu m'as parlé de qui? De Dembélé.
Je parlais de Dembélé qui joue.
Pas motivé, mais Dembélé, tu crois qu'il va arriver en équipe nationale?
Et pourquoi pas? Pourquoi
en
pas
équipe de France, tu penses qu'il va y arriver?
Mais pourquoi pas? Il est moins bon que certains qu'on a déjà vus. Est-ce que n'importe quel joueur qui joue stopper se considère moins bon que Franck Leboeuf qui est arrivé
par rapport à ce qu'il a produit là avec les espoirs, tu vas me dire que ce mec-là, tu y vas
aller en peut-être que ce que tu vois avec les espoirs, c'est pas vraiment parce qu'ils n'en ont.
Toi, tu l'as pas vécu, Franck. Tu l'as pas vécu.
Non,
parce
mais quelle est l'importance d'avoir... Non, mais personne regarde, personne s'y
Franck,
intéresse.
Tu l'as pas vécu. Il y a des choses. Il y a eu un moment donné, juste après la Coupe du Monde 98, il y a eu des choses qui se sont passées. Mais toi, tu le voyais pas puisque t'étais en haut. Moi, j'étais en espoir à ce moment-là.
Ouais.
C'est à l'époque des Trezeguet et des Henry.
Qui sont redescendus en
qui
espoir.
Qui sont redescendus.
À ce moment-là.
Mais quand ils redescendaient, c'était une catastrophe.
Pourquoi?
Mec, ils pas motivés. Pas ils avaient pas envie. Anelka aussi, ça a été comme ça. Et les mecs, ils avaient pas envie. Qu'on les comprenne ou qu'on les comprenne pas, on n'est pas d'accord avec Franck, mais voilà, moi je pense que porter un maillot bleu, quand c'est un devoir de te donner à 100% quand tu l'as sur les épaules, mais ça ne regarde
ça,
que moi.
Ça, j'ai pas, voilà, j'ai pas dit que j'étais
ça ne regarde
ça,
que moi. Et je pense que la fédération, à mon avis, c'est à ce moment-là, donc fin des années 90, où elle a dit stop.
Ouais.
Quand un mec, il est installé au-dessus.
Tu vas pas en dessous.
Tu le reprends pas.
Ma problématique. Hier, il y a quatre compétitions en ce moment. Hein, la CAN, la Copa América, la Coupe du Monde des filles et l'Euro Espoir. Qui, chez les Français, a regardé, à part nous, parce que c'est notre boulot, les journalistes, c'est important, les espoirs? Je fais un pari que...
Il y a eu 630 000
personnes.
Et donc, les filles, le foot féminin, 3 millions.
Des 3 millions. Et combien Norvège hier alors,
3 millions.
3 millions, voilà. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que nous, on n'en a rien à foutre des espoirs, on n'en a rien à foutre des équipes de jeunes.
Franck, on les suivra aux JO.
Franck, pardon, je veux ça, pas
qu'on leur mais les JO, je regarde pas le foot aux JO. Si, parce que j'ai mon boulot. Mais sinon, je regarde pas le foot. Je regarde l'athlétisme, je regarde l'aviron, je regarde même le canoë-kayak. Je veux pas voir du football.
Franck, tu sais que si tu poses la question aux joueurs de foot de notre génération, Moi, je serais même d'avis à te dire, moi, le foot, il a rien à foutre, il a rien à faire aux JO.
Mais bien sûr,
ils sont tous des pros, ils ont pas, ils ont rien à foutre aux JO.
Le JO,
c'est pour les amateurs.
Le tennis, le basket, c'est pareil.
Pour Ripoll, c'était important.
Juste quand même,
il va rester du coup.
Sur la comparaison des audiences hier, c'est vrai, c'est facile de le faire. 600 000 pour les espoirs et 3 millions pour la Coupe du monde féminine.
Pas une équipe,
et c'est pas une équipe française. L'équipe de France. Mais est-ce que tu penses sincèrement que si on avait inversé les deux chaînes, si la demi-finale des espoirs avait été sur TF1 et l'Angleterre-Norvège sur W9, on n'aurait pas aussi inversé les chiffres? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu structurel là-dedans?
Non, je pense pas. Parce que ça reste W9, ça reste une chaîne dont tu n'as pas besoin de câble, c'est pas une chaîne du câble.
Oui, mais qui n'a pas la force de frappe de communication TF1.
Allez, on va dire qu'il y en a 500 000 qui ont regardé parce qu'ils mettent TF1 tous les soirs, ou je sais pas où, mais il y en a quand même 2 millions et demi qui ont regardé, et qui ont préféré regarder les filles Norvège-Angleterre, alors que c'est pas une équipe française, plutôt qu'une équipe française espoir en demi-finale.
Non, mais c'est tout. Il ne faut pas regarder
ça.
C'est pas comparable, parce que je pense que les gens actuellement regardent même les autres match de l'équipe de la Coupe du Monde féminine simplement parce qu'ils découvrent le foot féminin. Ils veulent continuer à découvrir les Bleuets. C'est pas de la découverte.
On oublie cette équipe de France qui n'est plus en lice. On retrouve une équipe de France qui, elle, est encore dans la compétition. L'équipe de France féminine qui s'apprête à disputer son quart de finale face aux États-Unis. Anthony Reich est autour du Parc des Princes avec des supporters des Bleus, Anthony.
Ouais, l'ambiance qui commence à sérieusement monter d'un cran ici. Énormément de monde, beaucoup plus à la même heure que lors du match d'ouverture, et beaucoup d'Américains, mais aussi beaucoup de Français à mes côtés. Richard, membre du COP des France Angels. Richard, ce soir, c'est le match que tout le monde attendait. C'est le choc face aux États-Unis.
Oui, c'est le choc face aux États-Unis. C'est le match. C'est la finale avant l'heure, voilà. Tout le monde attendait beaucoup de ce match-là, et c'est un match qui va revêtir une double importance, pas simplement un quart de finale de la Coupe du Monde, mais voilà, si la France perd ce soir, malheureusement, elle quittera le Mondial, et en plus, elle ne pourra assister aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Voilà, il faut impérativement finir dans les trois premiers pays européens, donc ça voudra dire se qualifier et finir... avant et gagner au minimum la petite finale.
Et alors, en termes d'ambiance, parce qu'on annonce quand même 10 000 Américains, ça va être une vraie bataille dans les tribunes, va falloir donner de la voix comme vous l'avez fait sur les précédents matchs.
Oui, tout à fait, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'ambiance ce soir. 10 000 Américains, oui, au moins, parce que c'est impressionnant le nombre de maillots blancs ou rouges que l'on voit. C'est vraiment de la pure folie, et on va donner un maximum de voix. On sera plus de 30 000 Français annoncés, donc il n'y a pas de problème, on va donner de la voix, Le but, c'est de sortir vraiment sans vote, pousser les filles et les aider à gagner.
Vous y croyez de toute façon?
Oui, bien sûr, on y croit, sinon on ne serait pas là. Et elles ont vraiment moyen de passer. Il y a les États-Unis, c'est une très grande équipe, mais elle a des points faibles. Il va falloir qu'on joue sur ces points faibles pour pouvoir passer.
Merci Richard, et bon match.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup Anthony Reich, en direct du Parc des Princes pour RMC. On te retrouve tout au long de cette soirée. On vous rappelle les rendez-vous dès 20h. Intégrale Coupe du Monde autour de Jean-Christophe Drouet. Le match en intégralité à partir de 21h. Petit teasing. Juste après qu'on a fait le point sur Maroc-Côte d'Ivoire, le match de la CAN, je vais vous poser, Willy, Laure, Franck, une question. Quel est le joueur qui a joué l'Euro Espoir que vous voyez monter chez les A? Vous avez le temps de réfléchir en attendant. Maroc Côte d'Ivoire avec Arthur Perrault. Salut Arthur.
Salut messieurs, dames, bonsoir à tous. On joue depuis 20 minutes au stade de l'Académie militaire du quart, toujours 0-0 entre le Maroc et la Côte d'Ivoire pour ce premier gros choc dans le groupe des deux équipes qui ont réussi leur entrée en lice en l'emportant sur le plus petit des scores face à la Namibie et l'Afrique du Sud. Déjà une très grosse occasion pour les Ivoiriens dans cette rencontre avec une tête de Kodjia seul au second poteau, sauvé par le défenseur Saïs, le défenseur marocain sur sa ligne. Donc après 20 minutes de jeu, toujours 0-0 entre le Maroc et la Côte d'Ivoire.
Merci Arthur, et je vous rappelle un petit peu plus tôt le match nul un partout entre la Tunisie et le Mali. Alors, Willy, quel joueur vois-tu monter chez les A parmi l'équipe qui a fait l'Euro Espoir et qui s'est arrêtée donc hier?
Je vais me contredire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais dire Aouar parce qu'il a... je l'ai dit tout à l'heure, il a un potentiel extraordinaire, mais il va falloir qu'il change énormément de choses pour y arriver.
Laure?
Moi aussi, je resterai sur les qualités individuelles du joueur, même s'il n'a pas explosé sur Aouar. Après, j'ai du mal avec avoir franchi un palier les autres joueurs.
Franck?
Willy Sagnol, parce qu'il a été les espoirs. Non, mais oui. Il y en a pas mal. Moi, j'ai dit, voilà, tu peux pas dire qu'un joueur...
Moi, j'avais bien aimé Bamba. Mais bon, il s'est blessé, je l'avais trouvé intéressant.
Mais oui, oui. Mais il y a des joueurs qui sont intéressants. Et puis, on ne sait pas, puisque moi, j'ai vu des mecs arriver très, très costauds en espoir, qui ont disparu. Et puis, il y a des mecs qu'on n'a jamais beaucoup vus en espoir et qui ont fait des... Ribéry, il a fait des espoirs, Ribéry?
Non.
Non, voilà.
Si, je crois. J'ai souvenir de l'avoir vu jouer en espoir.
Un tout petit peu. Possible. Donc, il y a des manquements, quelquefois, où on ne sélectionne pas des mecs. Mais moi, je trouve que, voilà, tu ne peux pas dire que Dembélé, mérite jamais sa place en A.
Mais surtout que tu as un profil,
je vais en dire un parce que vous n'y pensez pas. Moi, je vais dire Bernardoni.
Ouais. Pourquoi pas ?
Ben pourquoi pas.
Mais plus
pourquoi
par rapport à ce qu'il fait à Nîmes. Nîmes, par exemple. Ouais. Parce que un jour, il faudra aussi de la relève.
19h22, ouais. Vous écoutez ici, c'est Willy sur RMC. C'est l'heure de la Minute Le Payeur.
Ben, je sais plus, j'ai perdu ce que je voulais dire en fait.
Ah ben, merci. Presque fait une neuf là.
Le terrible jingle.
Non, c'était pour revenir sur l'avenir de Ben Arfa. Donc il avait annoncé qu'il avait trouvé le futur club.
Oui, c'est ça, il y a une photo sur les réseaux sociaux qui tourne. C'est sur les réseaux sociaux.
Il a pas dit le club, mais il a annoncé qu'il avait trouvé le club.
On le voit, il regarde son téléphone et la légende c'est quand tu apprends où tu vas jouer l'année prochaine.
Ouais, c'est juste un gag.
Non mais déjà simplement dire que
ils en veulent plus le Real.
Non.
Non mais que le concernant,
je croyais que Ben Arfa allait au Real, moi. Non, vas-y.
Bon, j'y vais.
Vas-y.
C'est ta minute.
Non,
c'est...
Bah, du coup, elle sait plus ce qu'elle voulait dire.
Non, allez, si, je sais. C'est déjà le concernant, je trouve ça dommage de pas l'avoir vu s'inscrire dans la continuité du côté du Stade Rennais, parce que ils lui ont quand même donné sa chance. Il était au cœur du projet de Julien Stéphan quand il est arrivé. Maintenant, je trouve qu'à 32 ans, il prend un risque de jouer dans un autre club. Il voulait jouer dans une équipe qui a un projet de jeu ambitieux. Je le vois vraiment que du côté de l'Espagne pour s'épanouir. J'ai du mal, on l'annonce peut-être à Séville. Je le vois mal aller en Bundesliga, ce que j'avais entendu aussi Mönchengladbach. Voilà, dire que plutôt, moi je pense que c'est le club qui va prendre un risque. Je le vois plutôt de sens là, que c'est plutôt un club qui va prendre un risque de voir Ben Arfa, parce qu'à 32 ans, j'ai du mal à le voir s'imposer dans un collectif. Et même si c'est un joueur talentueux, j'ai peur qu'il soit plutôt qu'il se plante un petit peu, et j'aurais plutôt aimé le voir garder du côté de la Ligue 1 pour qu'il continue de s'exprimer.
Moi, je le vois partir dans un club exotique.
Ah ouais, un dernier gros contrat, genre.
Ouais, Chine, ouais. Qatar.
Il y a peut-être le Béchitas. Peut-être
hein, lui, il a le Béchitas. Projet de jeu avant tout, etc.
Bah, je souhaite de faire ce qu'il veut, surtout. Mais voilà, moi, c'est mon idée.
Willy. Bon, de toute façon, à la rigueur, il va où il veut. Moi, ça restera un énorme gâchis, et puis c'est tout. Voilà. Quand t'as un talent comme ça, t'as pas le droit de le gâcher comme lui. Il l'a gâché. J'ai joué avec lui, ouais. T'as pas le droit de le gâcher comme il l'a gâché. T'as pas le droit, à un moment donné, tu dois avoir des gens autour de toi, que ça soit, j'en sais rien, dans ta famille, que ça soit ton agent.
Mais c'est l'entourage, c'est quoi le problème chez Ben
Arfa? Son problème, c'est que lui, il veut jouer son football à lui.
Ouais.
Il veut pas jouer le football des autres, il veut jouer son football à lui. Ça fait des années qu'il le dit, et t'as pas un mec dans son entourage qui, pourtant, il y a un mec, on le sait, qui est dans son entourage pour pas le citer, on sait qu'il est dans son entourage. Ce mec-là, il aurait dû lui mettre des tartes à Athènes en lui disant, tu as un talent, tu as le talent pour faire partie des meilleurs joueurs du monde. Tu vas le gâcher si tu as toujours cette façon de penser, de dire, je veux jouer mon football, pas le football des autres. Et à un moment donné, le foot, c'est un sport collectif. Tu dois jouer le football que l'entraîneur te demande de jouer. Et ton talent, tu le mets au service de ça. Non, il aurait pu faire tellement de belles choses.
Il n'y a pas que ça,
mais c'est pour ça que
tu permets. On dit toujours d'un joueur, et souvent, et c'est Roland Courbis qui me l'a dit, on dit souvent d'un joueur, oh, il avait tout pour réussir. Ben non, il n'avait pas tout pour réussir. Il lui manquait certaines cases qu'il faut remplir à chaque fois. Et Ben Arfa avait beaucoup de cases qui se remplissaient.
Et ben, il avait toutes les cases techniques pour
voilà,
être,
mais
pour
il
être
manquait,
fabuleux.
Voilà. Il manquait d'autres choses. Il manquait d'autres choses, et c'est pour ça qu'il n'a pas réussi.
Tu t'es dit qu'il aurait pu être Ballon d'Or?
Mais non, mais en fait, chier que votre Ballon d'Or.
Non, mais vous emmerdez avec le Ballon d'Or, c'est un récompense individuel. Mais non, c'est pas un but pour un joueur, c'est un but pour un équipe.
Si, comme je l'ai dit, voilà. Si à un moment donné, peut-être son entourage d'autres choix et des choix sportifs plutôt que du pognon ou de je sais pas quoi, peut-être qu'Atem il sera ailleurs. Si à un moment donné, quelqu'un avait eu le courage de lui dire, réveille-toi, faut que tu changes ce que tu penses, parce que c'est possible. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis.
Et toi, t'as eu envie de le secouer, par exemple, quand tu l'as vu devant toi en équipe de France?
Non, parce qu'on n'a pas joué assez longtemps. Moi, j'étais sur la fin.
Laure, pour conclure sur Ben Arfa.
Non, mais justement, pour rejoindre ce que dit Willy, quand il dit, c'est que du côté du Stade Rennais, il était l'homme fort de cette équipe. Et je le vois mal aller dans un autre club. Il sera pas l'homme fort, il devra s'imposer. Et là, je le vois, justement, moi, je le vois plutôt aller se perdre.
On attend en tout cas la révélation de cette destination. Juste, je vous donne une dernière info concernant l'équipe de France Espoir. Elle vient de nous parvenir, signée Loïc Tanzi, de la rédaction d'RMC Sport. Des nouvelles de Colin Dagba, blessé hier lors de la demi-finale face à l'Espagne. Il a passé un IRM à l'hôpital américain avec le médecin du PSG. Les nouvelles sont bonnes. 3
à 4 semaines d'absence maximum pour le latéral droit du Paris Saint-Germain. 19h27 sur RMC. Dans un instant, la suite d'ici c'est Willy, la CAN dans le carré VIP et Lyon dans le Focus Ligue 1. Merci Franck.
Salut les gars, et bonnes vacances. Et tu me parles encore du ballon d'or, je te jure. Promis. Ça va mal se passer.
On arrête tout.
Bonne
Allez,
vacances,
à tout de suite sur RMC.
RMC, Willy Sagnol. Ici, c'est Willy.
Allez, 19h32, toujours dans Ici, c'est Willy jusqu'à RMC, sur RMC, pardon, jusqu'à 20h, avec Louis Amar et François Pinet. Louis, c'est l'heure de parler de la CAN.
Absolument, on va
avec
parler
l'Algérie
de la CAN,
surtout.
Absolument, et de l'Algérie notamment. Dans quelques minutes, il y aura également le Focus Ligue 1 avec une question. Que doit faire l'Olympique Lyonnais avec Anthony Lopez, l'augmenter et le prolonger ou le vendre cet été derrière? Il y aura le buzzer Pinet comme chaque soir. Mais d'abord donc, Willy, tu l'as dit, la CAN.
RMC.
Goal! Il y a ça, il goal, Sénégal 0.
Carré VIP de Willy.
La version originale du but de l'Algérie hier face au Sénégal, but qui a permis au Fenech de l'emporter 1-0 et de se classer en tête de leur groupe. On revient à l'Algérie dans un instant, mais d'abord un match est en cours entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, Arthur Perrault.
Et le premier but de la rencontre pour le Maroc, le but signé Youssef En-Nesyri après une formidable percée dans l'axe de la défense de Nordine Amrabat qui a trompé la vigilance d'un puis deux, puis trois défenseurs ivoiriens qui étaient totalement passifs sur cette action et le service à la limite du hors-jeu pour le joueur de Leganés, Youssef En-Nesyri, qui n'a donc plus qu'à tromper Gbowo, le gardien ivoirien. Ça fait 1-0 après 34 minutes de jeu pour le Maroc face à la Côte d'Ivoire.
Ça, c'est donc le choc du jour. Merci Arthur. On le disait, le choc d'hier, choc du groupe C, Algérie-Sénégal, victoire de l'Algérie 1-0. Les Fenech en tête avec 6 points en 2 rencontres, 3 buts marqués, aucun encaissé. Est-ce que ça peut être, Willy, l'année de l'Algérie?
Je sais pas, parce qu'il y a quand même eu un renouvellement d'effectifs assez important sur les derniers mois, notamment avec l'arrivée du nouveau sélectionneur Belmadi. J'ai bien aimé leur match. Après le match en lui-même, j'ai pas trouvé que c'était un match de très haut niveau, mais j'ai aimé cette équipe d'Algérie parce que je l'ai trouvé. On va dire une chose que je l'avais pas forcément trouvé dans les précédentes générations, c'est un esprit collectif. Et j'ai trouvé qu'il y avait des joueurs qui avaient envie de jouer les uns avec les autres, des joueurs qui se mettaient un peu au service du collectif. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Après, j'étais très déçu aussi du Sénégal, ouais, malheureusement, parce que en plus j'en ai parlé la semaine dernière. Moi, je mettais le Sénégal vraiment dans mes grands favoris parce que je trouvais qu'il y a vraiment une belle génération. Et du coup, ça leur mettra peut-être un petit coup de fouet pour pour leur permettre de repartir de l'avant, parce que le Sénégal a fait pour moi une très belle Coupe du Monde. Ils ont des joueurs de talent avec un génie du football, Sadio Mané. Je pense qu'ils ont un sélectionneur qui est très bon aussi, parce qu'il a fait vraiment de belles choses depuis qu'il a repris cette équipe. Donc voilà, ça va leur mettre un petit coup pour leur dire, attendez, on n'est pas arrivé, il y a encore du travail. Mais cette équipe de l'Algérie, oui, m'a fait plaisir. C'est la dernière fois que l'équipe d'Algérie m'a fait plaisir, c'était la Coupe du Monde 2014.
Bien sûr, le 8e mai,
où on trouvait qu'il y avait un vrai esprit collectif que j'ai retrouvé un peu hier. Donc je suis content pour cette équipe-là.
Et juste un petit indice hein, pour la fin de la compétition. 2 victoires lors des 2 premiers matchs, c'est arrivé une fois pour l'équipe d'Algérie à la Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 1990. Et en 1990, c'est la seule victoire de l'Algérie. Donc en Algérie, déjà, on imagine que ça peut
doucement, ils reviennent petit à petit, ils font des bonnes choses. Faut pas aller trop vite.
Ce qui est bien, c'est que Jamel Belmadi fait quand même des choix. Et puis l'Algérie a aussi été victime pendant un moment d'une succession de coachs qui n'ont pas réussi à s'installer. Alors, si Jamel Belmadi ne réussit pas cette Coupe d'Afrique des Nations, peut-être qu'il ne restera pas en poste, mais ça serait bien aussi un petit peu de stabilité au niveau du banc.
Ils ont eu 4 ou 5 sélectionneurs en 2 ans.
Après Vahid Halilhodžić, il y a eu Gourcuff qui est resté 2 ans, Nabil Negiz qui lui est resté moins de 100 jours, Rajevac, il n'a pas laissé non plus des grands souvenirs, il est resté 100 jours, Georges Likens, moins de 100 jours, il a tenu, Alcaraz en espagnol, et puis Rabah Madjer qui est resté jusqu'à juin 2010.
Ça fait 7 en 4 ans.
Mais de ce que tu as vu, pour toi, l'Algérie est la favorite de cette CAN pour l'instant?
Non, ne me fais pas dire ce que j'ai
pas
dit.
Mais c'est pour ça que je te pose.
J'ai dit, c'est une équipe qui m'a plu.
Alors, qui d'autre?
Ben, on en a parlé, voilà, je pense que le Sénégal sera toujours là, l'Égypte qui joue à domicile, et puis après ça dépendra un peu du match d'aujourd'hui entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, mais il y a aussi beaucoup de qualité. Après, il faut pas perdre de vue que la CAN, c'est la première fois
en été.
Ça se joue en fin de saison.
Ouais.
Donc avec des organismes fatigués. Les joueurs ne sont pas forcément habitués à ça. Enfin, jouer une canne, il fait chaud. C'est en fin d'année. Donc, il va peut-être y avoir un nivellement de valeur et on n'est pas à l'abri de voir une surprise.
Le programme de la CAN ce soir, 22h, Afrique du Sud, Namibie. Vous suivrez ça, évidemment, en direct sur RMC. 19h37 dans Ici, c'est Willy. On revient en France.
Parlons de loisirs maintenant et de jeux qui sont toujours à la mode. L'un des préférés des Français, c'est toujours le Scrabble.
Le Focus Liga.
Qui sera dans les buts de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine? La question se pose après les propos de Jean-Michel Aulas hier dans Team Duga au sujet du Portugais Anthony Lopez. On en parle dans un instant et d'abord on l'écoute. Jean-Michel Aulas, hier, dans Team Duga, on va l'écouter dans un instant. Jean-Michel Aulas qui s'est exprimé sur son gardien Anthony Lopez. On retente.
Il y avait une demande de 4 années supplémentaires, donc de 5 ans pour Anthony Lopez. Nous, on a confirmé une proposition de plus 3 ans à des niveaux qui sont des niveaux jamais atteints par un gardien. Et pourtant, on a eu quand même des gardiens internationaux à Lyon dans le passé. Ben, on va se revoir et je pense que c'est important que Juni voit Anthony himself, puisqu'au dernier rendez-vous, Anthony était en vacances. Bon, moi, j'étais présent. Et donc voilà. Donc.
Willy, est-ce que l'Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas doivent tout faire pour prolonger Anthony Lopez?
Il doit faire beaucoup de choses, oui, parce que Lopez est le meilleur joueur de l'effectif depuis maintenant un bon moment. Après, entre une proposition de 3 ans et une demande de 4 ans, s'ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente, c'est que
c'est le salaire qui pose problème, c'est ce que sous-entend voilà, Jean-Michel Aulas. Pas,
parce que sur la durée, 3 ans ou 4 ans, c'est pareil.
Pour le dire clairement, Willy, est-ce qu'Anthony Lopez il mérite le même salaire qu'un Depay, qu'un Fekir, qu'une star offensive, même si c'est un gardien? Que un gardien,
non,
entre guillemets, pardon.
Non. Il mérite plus. Il mérite plus parce que c'est le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur de l'effectif depuis 2 ans, 3 ans. Donc c'est le joueur qui doit être le mieux payé. Et moi, je suis pour la méritocratie dans tous les domaines. Et quand vous avez votre meilleur joueur qui est votre gardien de but, eh ben vous le payez mieux que les autres, c'est normal.
Il est actuellement le 8e salaire de l'effectif, hein, 220 000 euros brut mensuel, et il demanderait près de 400 000, ce qui serait le joueur effectivement le mieux payé. Ben,
si
on accède à ces demandes, mais visiblement c'est pas le cas devant Memphis Depay.
Moi j'ai connu une génération qui est différente. Certes, c'est peut-être plus le football de maintenant. Il y a presque déjà 10 ans, mais moi j'étais habitué, j'ai joué pendant presque 10 ans dans un club où il y avait une grille salariale, il y avait tout simplement 3 niveaux.
Et point barre.
Il y avait ceux qui jouaient, il y avait, on va dire, les joueurs très importants de l'effectif, il y avait ceux qui jouaient régulièrement et parfois un peu sur le banc, et puis il y avait les jeunes et ceux qui arrivaient.
Mais là,
et
c'est un joueur formé au club aussi. Non, mais victime Anthony Lopez, forcément, les joueurs qu'on vient chercher.
C'est le meilleur.
On les fait payer.
Et aujourd'hui, si demain on faisait ça, il n'y aurait plus de problème. On pourrait dire que Lopez, Ndombele, Fekir, ils gagnent tous la même chose. C'est 4-5 meilleurs joueurs. Et puis c'est tout.
Yanga NBY, il touche toujours plus de 3 millions. Hein. Ah oui. Il est toujours en contrat jusqu'en 2020.
Voilà. Ouais, bah écoute, bah ça par contre, ça c'est aussi des choses que je comprends pas. Parce que même si à un moment donné, le garçon, il gagne de l'argent, c'est bien, mais tu peux pas être heureux. Et c'est pas l'argent qui te rend heureux, donc.
Donc pourtant, Anthony Lopez mérite totalement le salaire qu'il demande.
Ah mais oui, non. Alors non, je dis pas qu'il mérite le salaire qu'il demande. Je dis que pour moi, s'il demande à être le mieux payé de l'effectif, pour moi, je ne vois pas de choses contraires à ça parce que c'est le meilleur joueur depuis plusieurs années.
19h41, tout de suite on parie.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec un Christophe Payet très estival quand même. Petite chemise en lin rose. Canicule sur Christophe Payet. Ça va, Christophe?
Salut, messieurs. Salut, Christophe. Salut à tous.
C'est moche de se faire. T'arrives, oui. Tu vois, t'as rien demandé à personne, bon, t'arrives tranquille et
te tombe dessus.
T'as bien raison.
Alors, on parie sur France, États-Unis, quart de finale de Coupe du Monde féminine. L'équipe de France n'est pas favorite. 3-30, la victoire des Bleus. 3-30, le nul, c'est-à-dire prolongation. Et 2-35, la victoire des États-Unis. Il y a énormément de similitudes entre le parcours de l'équipe de France 2019 et celui de l'équipe de France 1998. 3 victoires au premier tour contre des équipes asiatiques, africaines et scandinaves. Et une prolongation en 8e de finale contre une équipe sud-américaine.
Est-ce qu'il est fort?
Donc tir au but.
c'est
victoire de la France au tir au but comme contre l'Italie en quart de finale en 1998. La cote est à 10. Ça, c'est pour l'anecdote. plus sérieusement, le nul à 3,30 me paraît être un bon pari. Après, je pense qu'il faut se couvrir avec le N2 et les deux équipes marques parce que, a priori, quand même, les États-Unis sont meilleurs. Mais on n'oublie pas que la France reste sur 9 victoires consécutives et que la dernière défaite des États-Unis, bah, c'était justement contre la France. 14 matchs, une seule défaite pour les Américaines. Mais elles ont perdu le 19 janvier de cette année contre les Bleus. Donc, match nul, 3,30 pour moi.
Willy.
Malheureusement, je vois pas comment on peut gagner ce match.
Au pénalty. Au tir au but.
Peut-être, mais je vois pas comment on peut
avec
gagner.
Avec un coup de chance.
Oui, mais il faut arrêter de penser que dans le foot, il y a de la chance.
Ah,
le foot, c'est.
Pourtant, le dernier.
Pour moi, le foot, c'est que des conséquences. Quand il y a des choses qui arrivent, ce sont que des conséquences de.
Et la chance, ça peut jamais être la cause.
Quand il y a des bonnes.
Bah oui.
Allez, mais c'est rare.
Christophe, ça donne quoi la France en prolongation?
C'est 10 aussi.
C'est 10 aussi.
Ah, c'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal ça.
Pourquoi vous voulez des prolongations?
Enfin, on veut pas. On essaye d'analyser les forces en présence.
Ouais. Donc toi, c'est plutôt les États-Unis gagnent, c'est coté à 2,35.
Avant la fin du temps,
pour faire grimper la cote. Alors c'est vrai qu'il y a une cote qui est peut-être intéressante pour ceux qui veulent jouer la victoire des États-Unis. C'est les USA gagnent avec but d'Alex Morgan. C'est 3,65. C'est quand même un pari.
Ouf.
Elle met plus un but depuis le premier match contre la Thaïlande.
Ouais. Elle est un peu diminuée.
Oui, mais bon.
Non, mais oui.
Et c'est vrai que bon, après, t'as Loge à 4,20.
Sinon, tu mets Rapinoe.
Comment ?
Rapinoe.
C'est elle qui tire les pénaux.
4,50.
Ouais, allez, on va la faire.
Ça c'est une belle cote, ça. Ouais. Rapinoe.
Eugélie Le Sommer est coté à 3,75, quand même le signal.
Ah oui, pas mal aussi.
C'est une très grosse cote pour une attaquante de ce niveau-là.
On fait le bilan demain dans les grandes gueules du sport, par exemple, vers 10h45.
Eh ben, on peut faire ça.
Avec toi, Christophe Payet.
Ouais, ouais.
Merci. Tous les conseils et toutes les cotes et tous les conseils de la Dream Team sont sur rmc4.fr.
Salut à Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Arthur Perrault, le direct. Maroc, Côte d'Ivoire, Coupe d'Afrique des Nations, on approche de la mi-temps.
Encore une minute à jouer exactement dans le temps réglementaire de cette première mi-temps et toujours ce score de 1-0 en faveur du Maroc face à la Côte d'Ivoire. Le buteur à la 23e minute de jeu, Youssef El-Nesseri, le joueur de Leganés, après une magnifique passe décisive de Nordine Amrabat. 1-0 donc pour le Maroc face à la Côte d'Ivoire.
19h45 sur RMC. Dans un instant, ici c'est Willy revient, le buzzer Pinet, et on retourne au Parc des Princes avec Jeannot Rességuier pour les compos de France-États-Unis. A tout de suite sur RMC.
Willy Sagnol. Ici, c'est Willy.
Allez, 19h50, vous êtes dans les 10 dernières minutes d'Ici, c'est Willy sur RMC. Et c'est l'heure du buzzer. Mais, c'est l'heure du buzzer piné.
Mais oui. Juste avant, Willy,
quand même, info.
Nouveau détour par le Parc des Princes où Jeannot Rességuier nous appelle. Bonsoir Jeannot.
Bonsoir les pessimistes.
Salut,
ça va
Jeannot. En direct du Parc des Princes.
Non, moi j'y crois Jeannot.
On est obligé d'être un peu non. Tu l'es pas toi?
Pas du tout.
Jamais. Ah. Jeannot Rességuier n'est jamais pessimiste.
Je ne suis jamais pessimiste.
Voilà. Voilà. Ça, c'est une règle de base.
Comme ça, je suis pas surpris.
Les compos de France-États-Unis, elles sont officielles.
Oui, pas de surprise pour l'équipe de France avec le 11 de type de Corinne Diacre, celui qui avait débuté contre la Norvège. Sarah Bouadi dans les buts. La charnière avec Wendy Renard et Griège Mbok. À gauche, Amel Majri. À droite, Marion Thauran. Au milieu de terrain, Amandine Henry, la capitaine, et Elise Busaglia. Le 4-2-3-1 complété par Gaëtan Tiné dans l'axe. Derrière, l'attaquante et buteuse Valérie Gauvin. Côté gauche, Eugénie Le Sommer, Kadi Diatou, Diani sur le côté droit. On rappelle qu'on met les compteurs à zéro des cartons ce soir après les quarts de finale. Donc Eugénie Le Sommer, Valérie Gauvin et Wendy Renard sont sous le coup d'un avertissement en cas de qualification pour les demi-finales. Pour ce qui est des États-Unis, la surprise vient du milieu de terrain puisqu'on entendait le retour de l'ancienne joueur du PSG entre 2012 et 2016, le milieu de terrain Lindsay Horan, qui était absente contre l'Espagne. Et bien Jill Ellis a donc décidé de mettre le même 11 que lors du 8e de finale, ce qui nous donne Nehar dans les buts, O'Hara côté droit, Dunn côté gauche, la charnière Dolkemper et Sauerbrunn. Pour ce qui est des trois du milieu de terrain dans le 4-3-3, Hertz, Lavelle donc et Mewis, et ensuite les trois offensives, le trident magique, Is sur le côté droit, Morgan dans l'axe et Rapinoe sur le côté gauche. En rappelant là aussi que O'Hara, Morgan, Rapinoe et sur le banc des remplaçants Long sont sous le coup d'un avertissement qui les priverait d'une demi-finale en cas d'avertissement Ce soir, l'arbitre est ukrainienne, Katerina Monzoul.
Jeanne Auré-Séguier en direct du Parc des Princes. Merci beaucoup, Jeanne. On te retrouve juste après 20h dans l'intégrale Coupe du Monde autour de Jean-Christophe Drouet. Et puis, sachez que c'est la mi-temps entre le Maroc et la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations. 1-0 pour le Maroc à la pause. La seconde période à suivre sur RMC. C'est donc l'heure maintenant du buzzer Pinet.
Ouais. Avec Willy, d'abord, cette info, on en a brièvement parlé. L'AC Milan exclut des compétitions européennes. Ne jouera pas la Ligue Europa la saison prochaine. Puni, donc, pour non-respect des règles du fair-play financier. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le tribunal arbitral du sport. En fait, il s'agit d'un accord. Milan s'est mis d'accord avec l'UEFA. Ils étaient d'accord pour ne pas jouer la Coupe d'Europe, pour avoir une année supplémentaire pour pouvoir se remettre dans les clous du fair play financier au moins jusqu'en 2022. Bah, ils ont dépensé 380 millions d'euros lors des deux dernières saisons, sans réussir à se qualifier pour la Ligue des Champions.
Quel résultat, c'est fou ce chiffre.
Et désormais, ils le savent, il va falloir se serrer la ceinture. D'où le départ aussi de Leonardo, qui a quitté l'AC Milan parce qu'il n'était plus en accord avec la nouvelle ligne de l'AC Milan.
Heureusement, il n'était plus en accord. C'est lui qui les a mis dedans.
Non, c'est pas lui. Non,
c'est lui qui a racheté les joueurs.
Il a acheté quelques joueurs comme Paqueta, Piatek, 35 millions d'euros. Oui, tout à fait.
Et ça, c'est pas le pire coup qu'il ait fait, Piatek.
Non, Piatek, c'est bien, mais après, il a fait dépenser beaucoup d'argent au club.
Oui, oui. Mais bon, ils étaient d'accord, le club, pour dépenser cet argent.
Mais j'ai pas dit qu'ils étaient pas d'accord.
Leur objectif, c'était d'être en Ligue des Champions cette saison. Ça s'est pas fait. Voilà, ça profite en tout cas à la Roma, qui sera directement qualifiée pour Ligue Europa. Et le Torino, qui jouera les tours préliminaires de cette Ligue Europa. On va parler du PSG, toujours argent. Le gros contrat du Paris Saint-Germain. Puisque tu le sais, ils cherchent à augmenter les recettes à tout prix. On va juste signifier qu'ils ont signé un partenariat avec la marque à la virgule jusqu'en 2032 pour 60 millions d'euros par an. C'est bien, 25 millions d'euros jusqu'à présent. Ça en fait le PSG est dans le top 5 des clubs européens et le troisième plus gros contrat de cette marque avec un club derrière le Barça et Chelsea. Et puis toujours concernant le PSG, on apprend info RMC Sport que Timothy Weah rejoint Lille pour 10 millions d'euros plus un pourcentage à la revente après Diaby qui lui a rejoint Leverkusen et l'Allemagne pour 15 millions d'euros. Voilà, c'est un autre jeune qui devrait suivre. Ouais. Ça fait beaucoup de on vend les jeunes quoi.
Oui, mais après il y a d'autres clubs le font, le Real, c'est la stratégie du Real aussi, c'est après plutôt que de mettre un pourcentage à la revente, peut-être éventuellement mettre une clause de rachat par exemple, comme le fait le Real, c'est bien. Parce que là, on a l'impression quand même que le centre de formation forme pour que les joueurs.
Justement, puisque tu parles du centre de formation, dernière info, le classement des centres de formation, ça va t'intéresser. Numéro 1, c'est qui à ton avis?
L'Ajax?
Non, en France. Publié par la FFF.
Lyon?
Eh bien non, justement, Lyon était depuis 6 ans le numéro 1, c'est le PSG qui est passé devant. Lyon se classe 4e derrière Paris, Rennes et Sochaux.
Mais là, on n'a pas le temps, mais en fait, c'est quoi les critères?
Les critères, je les ai. Nombre de contrats pro signés par les joueurs formés au club, le nombre de matchs joués en équipe première, le nombre de matchs joués en sélection nationale, le nombre de diplômes scolaires aussi obtenus, ça rentre en compte. En gros, le PSG a fait jouer beaucoup, beaucoup de jeunes.
C'est pas le meilleur sportif, on va dire. C'est pas sportif.
Bah, quand même, on les voit en sélection nationale, on les voit en équipe première.
Merci François. C'est la fin du buzzer. Merci beaucoup Willy pour cette belle saison. Je suis ravi d'avoir partagé un petit peu. Merci beaucoup.
Salut,
Willy.
Bonnes vacances à tous.
Bonnes vacances à toi. Vacances, Willy. Dans un instant, le gros morceau de la soirée. Je parle pas de toi, Jean-Christophe. L'intégrale Coupe du Monde avec Jean-Christophe Drouet.
Willy est en vacances ce soir.
Je suis en vacances ce soir.
Belles vacances, mon Willy. Oh, on a passé une année assez chargée. Bonsoir Willy. Bonsoir Louis. Bonsoir François. Et oui, l'événement ce soir, c'est cette rencontre magnifique, ce quart de finale de la Coupe du Monde entre la France et les États-Unis. Nous serons dans quelques instants en direct du Parc des Princes. Dispositif exceptionnel sur RMC. Le coup d'envoi, c'est à 21h et vous n'allez rien manquer.
RMC, 18h-20h, ici c'est Willy.